Bon, alors nous sommes, on va recommencer. Perekei Mishnevav. Asara Devarim Nivru Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. 10 choses ont été créées la veille de Shabbat, à l'entrée de Shabbat. Quel Shabbat? Shabbat Bereshit, le premier Shabbat du monde. Le monde a été créé pendant les 6 jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et après, comment Shabbat? Et à l'entrée de Shabbat, plaf, Hachem, il a encore ajouté quelque chose. 10 choses. Ve'iluhen, pi ha'aretz, la bouche de la terre. C'est quoi la bouche de la terre? La bouche qui a avalé Korach et compagnie. Pourquoi ça s'appelle bouche? On aurait pu dire c'est le trou, c'est l'ouverture. La bouche, c'est une ouverture, mais c'est une ouverture spéciale, c'est une ouverture pour avaler. Parce que la terre a avalé, ce n'est pas une simple ouverture, c'est une ouverture qui avale. Mais la bouche, ce n'est pas seulement pour avaler. La bouche, c'est aussi pour parler. Et l'ouverture qui a avalé Korach aussi, elle a parlé. Elle a émis un son, parce que c'est marqué, « Kolham nasu le kolam ki amru kulanu metim ». Parce que le texte, il dit, tout le peuple, ils se sont sauvés le kolam à cause de leur voix. Ils avaient tous peur, ils tout ont tremblé. De quel bruit? Le bruit, normalement, le bruit de l'ouverture. Ça veut dire, la terre a bougé, ça faisait un immense bruit. Mais le problème, il fallait pas marquer le kolam, il fallait marquer le kolo, sa voix, la voix de la terre. Pourquoi le kolam y a un pluriel? Donc, il faut dire le kolam, c'est le pluriel de quoi? De Korach va'adato. Korach et Datan va'viram qui se sont fait avaler leur voix. Et leur voix, ils ont crié. Et leur voix était agrandie par l'écho. Et qu'est-ce qu'ils ont crié? Ce que la Gemara nous dit. Moshe emet ve Torato emet v'anachnu bada'im. La Gemara nous dit jusqu'à aujourd'hui, il y a une voix qui sort de cet endroit, quand Rabbi Avraham a été dans le désert, il y a un bédouin qui l'a dit, je vais vous montrer où était avalé Korach. Il voyait un petit volcan, il voyait un petit fumée qui sortait. Il mettait l'oreille là-bas, il a entendu qu'il crie, Moshe met le Torah toi met. Donc ce cri, Korach il a crié. Et cette voix leur a fait peur à tous les Juifs. Et le pasteur qui dit bien que Moshe Rabbeinu, il avait dit que s'ils vont mourir normalement, je suis un faux prophète, et s'ils vont sortir Chaim Shola, s'ils vont descendre vivants dans la tombe, alors vous saurez que je suis un vrai prophète. Et c'est une immense question. Comment Moshe Rabbeinu, il dit, s'ils vont mourir autrement, je serai un faux prophète? Mais il n'était pas un faux prophète, ça n'existait pas. Moshe, c'est le vrai prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, s'ils vont mourir normalement, je suis un faux prophète. C'est du pur mensonge, je suis un vrai prophète. Point à la ligne, on ne peut pas. Seulement, le sens de Moshe Rabbeinu, il dit, s'ils vont mourir normalement, vous allez croire que je suis un faux prophète. Je suis un faux prophète, là, je suis un vrai prophète. Mais vous allez me soupçonner que je suis un faux prophète. Ve'im bria yivra Hashem. Si Dieu va faire un bria. Ve'tif tachar cette pierre va ouvrir la bouche. Ils vont descendre chaim vivant. Vous saurez que je suis un vrai prophète. Pourquoi? Parce que s'ils vont descendre morts, vous allez toujours penser que je suis un faux prophète. Et c'est simplement un tremblement de terre. Mais si la terre va s'ouvrir, ils restent vivants et ils vont crier à Moshe Met Vetorato Emet, Vanachno Abadaim, si eux vont avouer qu'ils sont menteurs, là vous allez croire. C'est ça que Moshe Rabbe nous dit. Imbria Yivra Hashem Upatstar Zet Pia. Que Dieu m'a envoyé. Parce que vous saurez, parce que le menteur lui-même, il a reconnu, et en vérité, ils vont reconnaître qu'ils ont menti, ils ont inventé un truc contre moi. Donc ça, c'est Pi Haaretz. Donc c'est archi important. Et pourquoi le bon Dieu, il a créé ça? Ben Hashmashot, à la rentrée de Shabbat. Moi, il n'en a pas créé lundi, au mardi, au mercredi, au vendredi matin. C'est comme il dit la Ramban. C'est que les 6 jours de la création correspondent aux 6 000 ans de l'histoire. Et le vendredi, c'est le 6e millénaire. Chaque 1 jour, c'est 1 000 ans, comme ça dit la Ramban. Vous le même Koubalim, ils disent le Ramban, le Rikanti, le Rabbi Nobachai, tous ils marchent le même chemin, que les 6 jours, c'est un Zohar quelque part, les 6 jours de la création correspondent aux 6 000 ans. Donc les six, du vendredi, la création du vendredi, c'est la création du sixième millénaire. Et donc le Shabbat, c'est Mashiach. Et Ben HaShemashot, c'est la venue de Mashiach. Donc quand il vient Mashiach, il y aura encore 10 phénomènes qui étaient créés, que les gens ils vont voir cette vérité. Et puis Haaretz, c'est-à-dire tous les menteurs contre Moshe Rabbeinu, tous les gangsters dans le monde qui ont parlé mal de Moshe Rabbeinu, de sa Torah, qui pensaient que les Juifs ils inventent une histoire de dormir debout, Hasve Shalom. Nous avons menti, on a raconté au nom de Moshe Rabbeinu qui avait une Torah. Tous ces bouches-là, ils vont reconnaître qu'ils ont menti. Moshe Med, Torah Torah Med, Manachnu Badaïm. Comme ça, le monde entier va crier. Donc ça, c'est le Pi Haaretz, cette merveille de l'ouverture de la bouche qui crie que Moshe dit la vérité. Ça va être dévoilé avec une grande puissance à la venue de Mashiach. Ou Pi HaBe'er, la bouche du puits. Quel puits? Le puits de Myriam. Et pourquoi il a une bouche? Pour faire sortir de l'eau. Alors, pourquoi ça s'appelle Pi? Pi, ça veut dire pour chanter. Parce que le père de Myriam faisait chanter. Myriam était une chanteuse. Elle a chanté la Shira. Et après, elle n'a pas chanté la Shira de la Berre, mais après tout, les Juifs, ils ont chanté grâce au père de Myriam. C'est une immense chanson. Et ce Be'er a fait sortir de l'eau qui réjouissait les Juifs. C'est Pi, c'est une bouche qui chante la gloire des Juifs. Et à la fin des 40 ans, ils ont chanté les Juifs. Pi HaBe'er. Pi HaAton, la bouche de l'ânesse. Donc la bouche de l'ânesse est aussi un phénomène. Qu'est-ce qu'elle a dit de si important? Elle a dit que quoi, pourquoi tu me frappes, ça fait 3 fois? Est-ce que j'avais l'habitude de te comporter avec toi? Si. Et là, il a dit non. Donc ce sont des paroles qui ont d'une puissance phénoménale. Pourquoi c'est une puissance phénoménale? Parce que Bilam était obligé d'avouer que l'ânesse n'avait pas la coutume, qu'aujourd'hui il y a quelque chose d'exceptionnel. Et qu'est-ce que c'est exceptionnel? Par exemple, la Gemara nous raconte que tous les gens autour de Balak, ils ont dit, Monsieur le prophète, vous avez du mal à votre ânesse, elle ne veut pas bouger, elle vous coince le pied, vous êtes énervé, vous frappez. Mais pourquoi vous avez pris cette bête-là si têtue? Dites-moi, vous n'avez pas de cheval? Un roi, un ministre, un riche, il chevauche sur un cheval, pourquoi vous prenez une ânesse? Alors Bilam, il a répondu, bien sûr, j'ai un cheval, mais par hasard, mon cheval n'était pas là et j'étais pressé. Alors l'ânesse, elle a ouvert la bouche et elle a dit, non, alors Ani, Anochi, Atoncha, moi je suis ton Aton toujours. Il a dit, oui, ça c'est pour porter des bagages, tu es mon ânesse. Elle a dit, non, Asherachavta, que tu as le coutume de chevaucher sur moi. Alors, ils étaient tous bés, les gens autour. Mais pourquoi Bilami chevauche toujours sur un ânesse? Alors, il a dit, Bilam, bon, exceptionnellement, je chevauchais sur toi. Il dit, non, c'est pas vrai. Mais Odi, Adayomazé, depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, tu chevauches sur moi. Alors là, les gens autour, ils étaient encore plus étonnés. Mais qu'est-ce qu'il a, ce type, avec cette ânesse? Jusqu'à la crache et les morceaux, Asken Iskanti, Rashi raconte, ça veut dire tu avais des rapports avec moi. En vérité, Bilam était un pervers, le pire des pervers qui existent dans l'humanité. Il avait comme épouse l'ânesse. Et quand ils ont entendu ça, on a compris que ce prophète-là, qui déteste les Juifs. Pourquoi il déteste les Juifs? C'est pas parce que c'est un grand philosophe et que sa philosophie l'amène à détester les Juifs. C'est pour tout à fait une autre raison. C'est parce qu'il est la créature la plus impure du monde. Lui, il peut pas supporter le peuple saint. Voilà le secret. Et ça, c'est le secret. Ça, c'est Pi HaAton, la bouche de HaAton qui s'est dévoilée à la rentrée des Shabbats. Et ça, c'est la promesse quand Mashiach va venir. Tous les philosophes qui parlaient mal de lui, de nous, tous les écrivains, tous ceux qui accusaient les Juifs, tous ceux qui se sont inspirés de Bilam de détester les Juifs, tous ces gens-là, Dieu va dévoiler que c'était des pervers. Ils avaient une vie pervers. Tous les antisémites, ils ont une vie pervers, en tout cas la grande majorité. Et c'est leur impureté qui les amène à ne pas supporter la kedusha du peuple juif. Ça, c'est Pihaton, et l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui est le symbole qu'Hachem ne va plus détruire le monde par un déluge. Et pourquoi pile l'arc-en-ciel, c'est le signe? Ils disent les mafarchim parce que l'arc-en-ciel, c'est un demi-rond, un demi-cercle. Et les deux pieds de l'arc-en-ciel sont posés par terre. Et le sommet, il est en haut. Maintenant, quand on a un demi-cercle, il ressemble à une arc. Quand un homme, il tire un arc, c'est un demi-cercle, il a le bois qu'il étend, qui pousse, et après, il a la flèche qui tire. Et pour tirer la flèche, comment on fait? On tire l'arc, elle est étendue vers le devant, et derrière, il y a une ficelle, et la flèche, elle est d'un côté sur la ficelle, l'autre côté sur l'arc, et après, lâche, et la flèche avance. Mais il faut tenir, mais la flèche va toujours vers l'endroit où l'arc est poussé vers le devant. Alors, si maintenant Akadosh Baruch Hu est au ciel, contre Hashem, il veut détruire le monde, ça veut dire qu'il tire des flèches. Alors, si Dieu il aurait voulu tirer des flèches, il veut tenir un arc, il faut qu'il mette les deux pieds de l'arc vers le haut, vers le ciel, et le bout de l'arc vers le bas, le sommet. Or, c'est le contraire. Toujours un arc en ciel, les deux pieds sont sur terre, et le haut de l'arc, c'est vers le ciel. Ça veut dire qu'on ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir. Comme ça. Et ça, c'était autrefois le symbole quand deux personnes, quand deux pays se disputaient, quand on levait l'arc et on montrait l'arc vers l'arrière, ça veut dire qu'on arrête de faire la guerre. C'est le symbole. Donc, ici, Hachem, il a dit, j'enlève l'arc, je fais un arc à verlan, je tire plus des flèches, c'est-à-dire je ne vais plus vous embêter. Ça, c'est une explication de Keshet. Et l'autre explication de Keshet dont on a déjà parlé, c'est la lumière blanche qui se divise je voulais, comment ça s'appelle, comme s'il y a des cristaux, donc ça se sépare la lumière blanche et ça fait du rouge, du vert, du jaune, etc. C'est séparé. Et dans la Kabbalah, on dit toujours la lumière blanche, ça représente le chesed, la gentillesse d'Hachem. Et après, il y a tous les midot, le rouge qui est midat hadin et les autres, des différents degrés de midat hadin. Toutes ces choses-là sont incluses dans le chesed. Tout est makor à chesed. Même si Hashem Hashem il est dur, en vérité, ça vient aussi des makor de chesed. Et donc, la maboul, Hashem voulait le montrer, même la maboul que je fais, c'était une union de chesed, que c'est. Je séparais le chesed, je vous montre que j'ai différentes sortes, façons de faire du chesed. C'est quand Akadosh Baruch Hu dit Hashem, j'aurais voulu faire du mal, mais je ne vous fais pas de mal. Je vous fais montrer que tout ce que je fais en vérité, c'est inclus dans le chesed, dans la lumière blanche. Alors, va Keshet. Va Haman. Haman. C'est quoi Man? La manne que les Juifs, ils ont mangé dans le désert. Et ça, c'est une minute. Pour le Keshet aussi, ça va se dévoiler à la rentrée de Shabbat. C'est-à-dire, quand Mashiach va venir, là, El Yanavi, tous les Juifs, ils vont poser des questions. Peut-être les Goïm aussi, en tout cas les Juifs. Ils vont demander, El Yanavi, dis-nous pourquoi le monde avait tellement beaucoup souffert jusqu'à vous êtes venu. Alors, il va montrer, tout était chesed. En vérité, tous les midat hadin étaient inclus dans le chesed, comme le keshet, il était inclus dans le blanc. Après, le haman. Le haman, c'est la manne que les Juifs y mangeaient pendant 40 ans. C'est une lumière céleste avec laquelle les anges sont nourris. Et les Juifs, ils étaient nourris par cette nourriture exceptionnelle. C'est une nourriture qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait manger, mais en vérité, c'est de la ruchniut. Et ça, c'est Shabbat, c'est Rouhani. Et les 6 jours de la semaine, c'est la Gashmi qui était créée. Et à l'entrée de Shabbat, la manne, c'est Gashmi Rouhani, c'est une forme Gashmi, mais en vérité, c'est couleur Rouhani, c'est pour ça qu'on n'est pas allé aux toilettes. La rentrée de Shabbat, c'est déjà quelque chose du monde futur qui est dans ce monde. Et la manne, c'est une forme du futur, la nourriture de Olam Haba qui est descendue ici sur terre. Donc, ça a été créé, Ben Hashmashot. Vahamate est le bâton de Moshe, le bâton de Moshe avec lequel il a fait tous les miracles. C'est aussi un bâton dur, mais en vérité, ça fait des miracles avec le nom Loutkevavke. C'est Hachem, il supprime les lois de la nature et il fait régner que des choses rouhani. Les choses Shabbat qui est rouhani, il a fait rentrer dans un monde gashmi. Ça, c'est Nyan, Vayinafash. Et alors, non, Vayinafash, le pasuk Vayinafash, Shabbat, Vayinafash, c'est le Nefesh. Hachem, il a mis le Nefesh dans le monde, c'est le Nefesh, le Neshama du monde, il a mis pendant Shabbat. Et le Maté, c'est le Nefesh de tous les miracles hein, dans ce bâton dur. Vahashamir. Shamir, c'est quoi Shamir? C'est le fameux animal qui a des rayons laser ou je ne sais pas quoi dans la bouche, avec lesquels il coupe les pierres d'Avnimiluim. Les Avnimiluim, ils étaient gravés, les noms de Avnimitra Yaakov, sans qu'on a enlevé de la matière. C'est des rayons laser, un petit animal qui a fait ça. C'est aussi quelque chose de spécial. Vaktav et l'écriture des Louchot. L'écriture de Aleph Bet Gimel, c'est des immenses secrets. L'écriture de la Torah, c'est visible à l'œil. En vérité, c'est quelque chose de cool au Rouhani, l'écriture. Va Mirtav. Mirtav, c'est soit le graveur avec lequel Hachem il a gravé. Ça veut dire, il a écrit avec le doigt de Dieu. Mais ce n'est pas le doigt. Hachem n'a pas de corps, c'est une image. C'est comme si un homme il écrit avec le doigt, comme si il y a une espèce de graveur. Un mirtav, c'est comment Hachem il a gravé les louchot. Le fait qu'ils étaient gravés, ils étaient visibles de tous les quatre côtés. Ça a traversé la pierre et on pouvait lire un orchestre ce côté de tous les quatre côtés et ça traversait un l'autre et c'est un phénomène qui n'existe pas sur terre. Et pourquoi Hachem il a fait compliquer les choses? Il peut écrire plus simple. Écrire le code gravé normalement. Pourquoi il fait compliqué? On peut lire de tous les quatre côtés. Pour qu'il y ait plus de gens qui peuvent le lire, il n'a qu'à venir un côté. Non, c'est parce que c'est le doigt d'Hachem, c'est-à-dire une signature qu'on ne peut pas falsifier. Si les louchot, ils avaient été gravés comme chez nous, on grave des tables, les gens, Hachem, ils auraient pu soupçonner que Moshe Rabbeinu les a gravés. Moshe Rabbeinu était au Har-Sinaï, là-bas, il y avait deux spécialistes graveurs, on lui a gravé l'Anochim Hachem Lekecha. Alors, les apicores, ils auraient pu dire, non, c'est Moshe Rabbeinu qui a fabriqué les louchot. Mais l'écriture, c'est une écriture divine. On peut pas, un homme ne peut pas le faire. Aujourd'hui, les signatures dans l'échec, on peut falsifier. Alors, ils ont fabriqué des nouvelles, comment ça s'appelle, les nouvelles trucs rondes là qui sont. J'ai oublié, ça s'appelle qu'on colle partout maintenant, j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais ça aussi, on peut falsifier. Alors aujourd'hui, les passeports, ils ont le doigt. Alors, le doigt. Alors, il y en a peut-être deux personnes qui ont le même empreinte de doigt. Oui, des hommes, ils peuvent avoir un le même que l'autre, même que je ne sais pas si ça existe. Mais si c'est le doigt d'Hachem, l'empreinte d'Hachem, c'est phénoménal. Tout le monde, il a vu que ça, c'est Hachem. Un homme ne peut pas écrire. Comme ça, on sait, et les pierres aussi sont d'une matière, ils ont viré de qui c'est à Kavod. Ce n'est pas des choses de ce monde-là. C'est une espèce de métal qui vient de l'autre monde. Un métal, une pierre spéciale. Mais il y en a qui disent Afhamazikin. Les mazikim, qu'est-ce que c'est mazikin? Ce sont des êtres vivants qui n'ont pas de corps, mais sont minuscules. Est-ce que c'est des microbes? Est-ce que c'est des virusim? Aussi, sûrement. Il y a beaucoup de sortes de mazikim. Il n'y a pas qu'une sorte. Il y a toutes sortes. Ça peut être des virus, ça peut être toutes sortes de choses. Là, on nous raconte si quelqu'un il boit du vin pendant la fermentation et ça il disjoncte, il commence à dire des bêtises. Ça s'appelle Mishneh, un homme qui a attrapé un cours d'aïkos et il dit écrivez un guet à ma femme. Eh bien, on n'écrit pas le guet. Ou si avant il a dit écrivez un guet et pendant qu'il a attrapé le cours d'aïkos, il n'écrivait pas, c'est rien. Pourquoi? Parce qu'il est dans un état de transe. Parce que c'est un empoisonnement par du gaz carbonique. Ça donne une chien d'alette. C'est dans le cerveau, il voit des hallucinations. Donc ça aussi, c'est des mazikim. C'est toutes sortes de choses, des choses qui interviennent, qu'on ne peut pas attraper avec les mains, mais qui, dans le monde, ils font des dégâts. Donc le mazikim aussi, il a créé. Et pourquoi, mon Dieu, il aurait créé ça à la rentrée de Shabbat? Quel rapport? Pour quelle raison il aurait créé pendant Shabbat? Peut-être ces mazikim, ils essayent d'empêcher la venue de Mashiach. Ou parce que c'est des êtres sans corps et Shabbat n'a pas de corps, je ne sais pas. Ou Kouvrato shel Moshe, et la tombe de Moshe, la grotte où Moshe Rabbeinu il est enterré, c'est une grotte magique. Pourquoi Moshe Rabbeinu doit être dans une grotte magique? Il ne peut pas être dans une grotte normale comme tous les tzadikim. Beaucoup, tous les tzadikim, ils ont enterré leur corps. Mais Moshe Rabbeinu, c'est spécial. Parce que la Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu l'omet. En vérité, il n'est pas niftar. Même c'est marqué Vik pour Oto Bagay, mais c'est un enterrement très spécial. En vérité, la grotte de Moshe Rabbeinu, marquée dans Chazal, c'est le tuyau pour entrer au Gan Eden. En vérité, Moshe Rabbeinu, il rentre vivant au Gan Eden. Et cette Kvoura, c'est ça, c'est un tunnel magique qui va au ciel. Mais ça, c'est un phénomène surnaturel. Ça a été aussi créé, réservé depuis Cheshitimé Bréchit. Ve'elo shel Avraham Avinu. Et le bélier d'Avraham Avinu. Alors, est-ce que ce bélier, ça veut dire quoi? Le corps du bélier est écrit à cette époque? Ou est-ce que la neshama du bélier? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si le corps du bélier était au Gan Eden depuis ce moment-là, peut-être. Ou le bélier était un bélier normal, mais il a reçu une espèce de nefesh qui était créée à l'époque, je ne sais pas. Alors, ça aussi, c'est à la rentrée de Shabbat. Ça, c'est Nimos Chutz, ça vient de Olam. Bon, l'âme à bas, c'est de toucher à Tamitim. Les sortes de ce bélier, grâce à ça, il y a toute le bride avec Avraham Yitzhak, c'est quelque chose futuriste, c'est une force du futur. Mais j'aimerais bien qu'ils disent Avtsvat, Bitsvat, Asuya. Une tenaille avec laquelle on fabrique une tenaille. Là, il y a un secret dedans que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Alors, Kibat Varim Bagolem. Il y a cette chose, il existe un golem. Qu'est-ce que c'est un golem? La traduction du mot golem, ça veut dire un objet qu'on fabrique, la matière brute qui n'est pas terminée. Quand il veut fabriquer une table, il a pour le moment du bois, il essaye de faire la forme d'une table, mais il n'a pas terminé. C'est encore un golem, la matière brute qui n'est pas terminée après ta utilisation. Ça peut être du ferraille. On va faire avec du ferraille une menorah. On a rendu chaud, on a donné un petit peu de la forme. Soit qu'on n'a pas du tout donné de forme, soit que c'est déjà une certaine forme, mais elle n'est pas encore utilisable. Elle n'est pas terminée. Alors, il y a des hommes qui sont des golems. C'est des hommes qui ne sont pas terminés. Leur intelligence n'a pas bien mûri. Et ils parlent, ils raisonnent, ils sont un golem. C'est encore un golem. Tu parles avec des gens. Il sent que tu as un golem devant toi. Il n'est pas mûr. Alors, Veshiva Bechacham, il y a cette chose chez un homme qui est sage. Chacham, quels sont les signes? Donc, les sept signes d'un sage, ça veut dire qu'il a mûri. Son intelligence est arrivée à un degré qu'on l'appelle Chacham. C'est Eino Medaber Bifnemish ou Gadol Mimeno Bechokhma. Il ne parle pas devant quelqu'un qui est plus grand que lui dans la Chokhma. Alors, un Chacham, il sait où il est. Il sait mesurer qui sont les gens autour de lui et qui est en train de parler. Quand il voit que l'autre, il est plus chacham que lui, il a la décence de se taire et de ne pas prendre la parole de lui. Il ne veut pas empêcher le public de profiter du chacham. Si lui va commencer à parler, et lui, il est moins chacham que lui, donc il va forcer le public d'entendre ses paroles. Il va priver le public des paroles de quelqu'un qui est plus chacham. C'est car forcément qu'il pense que le public profiterait mieux d'entendre ce que lui il dit. Donc c'est un siman qui n'a pas de chokhma. Il n'est pas, sa chokhma n'est pas mûr. Il croit encore que lui il est le plus chacham, pas l'autre. Il vole le temps des gens. Et il n'écoute pas ce que le chacham dit. Il écoute ce que le chacham dit, peut-être il va devenir plus intelligent. Alors donc, le siman, il n'est pas. Il n'est pas encore mûr de comprendre la chokhma. Il ne rentre pas au milieu des paroles de son copain. Tant que le copain n'a pas terminé son raisonnement, il ne lui coupe pas la parole. C'est quoi la logique? Parce que quand l'autre y fait un développement, alors ça prend du temps un développement. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Et quand tu veux couper la parole, c'est que tu veux contredire. Mais il n'a pas terminé. Peut-être quand il terminera, tu vas voir qu'il a raison. Il n'y a pas de raison de le contredire. Mais tu n'as pas entendu jusqu'à la fin. Alors pourquoi tu coupes? Il manque un chokhma. Tu n'as pas assez savoir-vivre de savoir. Il faut juger ce que l'autre il dit. Si c'est juste ou faux, faut juger une fois qu'il a terminé. Il faut pas lui couper la parole. Ve'eino nivhal hashif. Et il ne panique pas pour répondre. Ça veut dire quoi? Si lui, il développe quelque chose et quelqu'un lui pose une kushya, si on commence à paniquer, un siman qu'on ne domine pas le sujet. Et si on domine le sujet, on ne panique pas. Alors, un golem, il n'est pas terminé. Sa chokhma n'est justement pas terminée. Alors, il peut perdre les moyens quand on lui pose une question. Et le chacham, et non nivhal, il ne panique pas de répondre. Il sait répondre. Il sait expliquer ce qu'il a dit. Shoel Ka'inyan, il pose la question, le sujet qu'on discute. Il pose pas une question hors sujet. Quand il y a des gens qui discutent quelque chose et quelqu'un il pose une question hors sujet au rave, alors il fait dérouter tout le monde. Et quand on déroute tout le monde, on va mettre la tête ailleurs et pas ce qu'on s'occupe. Donc on a détruit la discussion ici. Les gens ne peuvent pas continuer à réfléchir le sujet. Donc, c'est une diversion. Il fait une diversion. Diversion, c'est casser la chokhma. Le type, il n'est pas chacham. Pose pas la question, le inyan. Ou meshiv kahalacha. Il se répond que la halacha, c'est-à-dire kahalacha, si c'est une question de halacha, c'est halacha. Si c'est une question pas halacha, halacha, c'est dire correctement tachlit. Pas tourner autour d'une philosophie qui. C'est pas ça qu'on cherche maintenant. Quand on cherche quelque chose, un sujet direct, faut pas tourner avec d'autres choses qui correspondent pas après à la vérité. Un jeu de mots ou un développement philosophique. Mais c'est pas ça. Mais on n'est pas en train de faire ça. Il faut répondre kahalacha pour ce qui correspond ici. Tu réponds la inyan. Ne fais pas de divertissement. Ni dans les questions, ni dans les réponses, ne fais pas de diversion. Omer al Rishon Rishon achron. Il dit sur le premier, sur le dernier. Alors, il y en a qui interprètent le sens, il est que quand quelqu'un pose deux questions, il faut d'abord répondre à la première question, après on répond à la deuxième question. Mais pourquoi? On peut aussi répondre d'abord la deuxième, après la première. En vérité, ça dépend qui est-ce qui pose la question. Parce que le premier pshat de la Mishnah, il est comme ça. Quand quelqu'un, il fait un développement, des fois, un développement est posé et composé de deux ou de trois éléments. Pour comprendre les trois éléments, pour comprendre tout le sujet, il faut développer trois sujets. Mais on ne peut pas comprendre le deuxième que si on connaît le premier. On ne peut pas comprendre le troisième tant qu'on n'a pas compris le deuxième. Donc, un homme, pour expliquer à l'autre quelque chose, il faut marcher dans l'ordre des choses. Tu dis numéro un, on a compris. Sur numéro 1, il construit un deuxième raisonnement 2, il construit un raisonnement numéro 3. Maintenant, quelqu'un qui est pas désordonné, qui est désordonné, un golem, il commence avec raisonnement 3 et personne n'y comprend. Après, il fait 2, et après, il fait 1. Et après, les gens sont complètement troublés. Ça, c'est pas comme ça qu'on explique. Omer al Rishon Rishon, c'est-à-dire ce qui doit être expliqué en premier, il dit en premier. Et ce qui doit être expliqué à la fin, il explique à la fin. Maintenant, ça peut aussi être si ceux qui demandent la question est intelligent et il pose deux questions, une première et une deuxième. Si c'est un homme intelligent, il a aussi une kavana dedans. Je vous pose deux questions, monsieur. Je voudrais d'abord savoir la réponse à la première. Quand je saurai la réponse à la première, j'ai une deuxième question après. Dans ce cas-là, l'homme, il doit répondre d'abord la première, et après répondre la deuxième. Des fois, il y a des gens, Il pose des questions désordonnées. Un golem qui pose la question. Si c'est le golem qui pose la question, il peut demander le deuxième sujet en premier et le premier sujet en deuxième. Dans ce cas-là, le maître doit inverser. Il ne doit pas répondre à la première réponse à la première question. Si l'autre est demande désordonné, il faut répondre. Ça veut dire le premier développement qu'il faut comprendre au début et après à la fin. Mais si ce qui demande est intelligent, la réponse aussi doit être faite d'une manière intelligente. Et quand il veut dire une halakha qui n'a pas entendu de ses maîtres, que Milu l'a fabriqué, il faut dire aux gens, sachez, c'est moi qui ai fabriqué ce chidouche. Ça veut dire, un rave qui dit des choses, il dit je dis pas de moi, ça c'est la Torah que j'ai toujours entendu de mes maîtres. Mais au milieu, il y a quelque chose qu'il n'a pas entendu du maître. Il faut dire, je pense que ça c'est moi qui pense. Je ne dis pas ça de mon maître, je ne dis pas c'est marqué sur Shulchan Aruch, ça c'est mon chidouche, un halakha qui n'est pas marqué sur Shulchan Aruch, ou qu'il y a deux avis dessus, que moi je pense comme ça, alors là on ajoute, moi je pense comme ça. Comme ça les gens ils savent que c'est lui. Ce n'est pas le maître. Il faut savoir qui a dit les choses. Ou le pshat, Alma shelo shama, Omer lo shamati, quand on ne connaît pas une halakha et on demande une halakha et on ne connaît pas, mais on se gêne de dire je ne connais pas. Alors on dit la réponse, pourquoi tu dis mais tu ne sais pas? Parce que je me gêne de dire que je ne connais pas. Alors on dit je connais et ça, ce n'est pas bon. À Saint-Golem, un chacham. Il reconnaît la vérité qu'il ne sait pas. Donc, soit le pshat, il est « Alma shelo shama omer lo shamati » s'il ne connaît pas la halakha, il dit « Je ne connais pas. » Soit, s'il dit un chidouche de lui, il ne faut pas le dire au nom de ses maîtres. Il faut le dire « C'est mon chidouche. » Ou « Modèle ha-emet » il faut reconnaître la vérité. C'est-à-dire que si on se trompait, on dit « Je retire ce que je dis. » Il ne faut pas faire justifier les paroles qu'on a dites simplement pour l'honneur parce que on a du mal à reconnaître. Et l'inverse de toutes ces choses, c'est le golem. Donc le golem, il coupe la parole de l'autre. Non, le golem, il parle devant quelqu'un plus raham. Il coupe les paroles de l'autre. Il s'embrouille quand on lui pose une question. Il pose des questions hors sujet. Il répond hors sujet. Et il fait le développement à verlan. Et il dit des choses comme il sait quand il ne sait pas, et il ne veut pas reconnaître qu'il s'est trompé. Ce sont les caractéristiques d'un golem. Alors, qu'est-ce que le Tanne veut nous apprendre? Il veut nous apprendre quoi? À distinguer les gens. Sache chez qui si tu veux apprendre chez quelqu'un, va chez un chacham, va pas chez un golem. Il veut dire aux gens, au golem, prenez-vous en main. Si vous voulez être chacham, si vous trouver un de ces caractéristiques dans vos paroles, eh bien, sachez-le de le réparer. Tu n'es pas encore arrivé à Tracham. Si quelqu'un, il trouve chez lui un de ces sept comportements, eh bien, il doit encore revoir la copie de sa chokhma. Shiva mine pour anoyot. Cette espèce de punition, pa'in le olam, arrive au monde, al shiva goufe avera sur cette corde avera. Alors, ici, c'est spécial, c'est marqué Shiva Minei Puranuyot. Al-Shiva Gufei Avera. Le Chol Etan, il aurait pu dire Shiva Puranuyot, cette punition, Ba'in La'olam arrive au monde, Al-Shiva Averot, sur sept péchés. Sept punitions pour sept péchés. Mais le Tan ne dit pas ça, il dit sept espèces de punition. Ce n'est pas un genre de punition, c'est une espèce de punition. Une espèce, c'est quelque chose qui. Il n'y a pas qu'une chose. Une espèce, l'espèce des fruits. Beaucoup de fruits. Mine pour neot. Baimilolanashive goufei avera. Ce corps d'avera. Pas cette averot. Des goufim. Goufim, c'est un ensemble, un corps. Un corps, il est composé par les pieds, les mains, la tête. Des corps d'averot. Les averot, ils ont un corps. Alors, il y a cette espèce de pourneur pour cette corde de péché. Alors, Miktsatan me'aserin ou Miktsatan enan me'aserin. Si une partie du public, il prélève le ma'aser, Il prélève le maaser. Qu'est-ce qu'on fait avec le maaser? Deux sortes, maaser ani, maaser sheni. En tout cas, si, disons, la moitié du public donne le maaser ani, donne le dixième aux pauvres, et en partie ne donne pas, alors, ra'av shel batzoret ba, il y a un risque d'une famine de batzoret. Batzoret, c'est-à-dire il ne pleut pas. Et donc, les gens, quand il ne pleut pas, les prix vont monter et ça coûte cher. Il y a des gens qui ont quoi manger, des gens qui n'ont pas. Mais certains rêvent, mais certains se vivent. Une partie du monde est rassasiée, une partie du monde est affamée. Ça veut dire le maaser, donner le maaser aux pauvres, c'est en liaison après avec la bracha dans les fruits. Les fruits, les céréales, la parnassa pour les gens est liée avec les gens du maaser. On dirait que là où on donne beaucoup de maaser, la parnassa du pays n'est plus rassurée. Là, on ne donne pas de maaser. Il y a un problème dans les fruits et légumes et des céréales. Alors, Gamrou Shelo, quand on décide, Gamrou, ils ont terminé sur la serre. Tout le public a dit, on ne prélève pas ma serre. Raaf shel mehuma ve shel batzoret ba. Alors, il arrive une raaf, une famine chez le mehuma. Mehuma, ça veut dire du militaire. C'est-à-dire, le militaire peut arriver, ve shel batzoret. Le militaire empêche de se procurer quoi manger. Ça veut dire, si c'est la paix, mais il y a à manger, il n'y a pas à manger, ça va. Mais si le militaire vient et ça donne une guerre, et la situation, elle est troublée, alors la batzoret qui existe, elle est beaucoup plus grave. Elle augmente la gravité. Donc ça, c'est parce que personne donne le maaser. Mais selon l'itolet echala, et si les gens ils décident de plus prélever la challah, c'est-à-dire quand on fait une pâte, il faut donner un morceau au Kohen. Et si on décide de plus donner au challah, raaf shel kelayaba. Là, une famine très grave vient. Pourquoi pour challah c'est pire que maaser? Pourquoi pour challah c'est kelaya, c'est une famine plus grave? Parce que maaser, on donne de quoi? On donne du blé. Challah, on donne de la pâte. Si maintenant un Kohen il a faim, ou un Kohen il a besoin de manger, il y a deux cas, où un Kohen ou le pauvre, ils n'ont pas la matière première, ou ils ont une matière première, mais on peut avoir de la matière première, mais on n'a pas faim maintenant. Mais on a faim. Un pauvre qui vient chez toi, il dit, vous pouvez me donner de l'argent, tzedaka. Pourquoi vous avez rien mangé aujourd'hui? Non, pour aujourd'hui, j'ai mangé. J'ai pour cette semaine mangé. Mais pour la semaine prochaine, je n'en ai pas. D'accord, je vais vous donner 10 euros. Ou je ne vais pas vous donner. Maintenant, imaginez un pauvre, il vient à la porte et il dit, je crève de faim, donnez-moi quoi manger. Alors je dis, non, je ne vous donne pas. Ah, ça c'est beaucoup plus grave. Il a faim maintenant. Alors, le maaser, on donne du blé. La challah, on donne de la pâte ou du pain qui est déjà cuit. Challah, c'est la pâte, on met dans le four, tout de suite, on peut le manger. Et souvent, la challah, on a déjà cuit le pain. Et le Kohen, il vient et dit, j'ai faim, monsieur. Vous avez des challah? Non, je ne vous donne pas. Mais il a maintenant faim. Donc, c'est beaucoup plus grave de le priver. Donc, pour Maaser, il arrive une famine. Mais pour challah, Rav Shel Kelaya, pourquoi est-ce que l'autre, il a faim maintenant et tu le prives? Dever bal olam, la peste vient au monde. Alors, dever, ça peut être la peste, ça peut être... Pas d'Afka la peste, et le dever dans la Gemara, on utilise pour toutes les maladies transmissibles, catastrophiques, toutes les épidémies, ça s'appelle dever dans la Gemara globalement. Dever bala olam, ça peut être un virus, ou le coronavirus, j'en sais rien, moi. Dever bala olam, almitot ha'amurot batorah shelo nimsru. C'est des cas de grave transgression de la Torah qu'on mérite la mort. Selonim sur le bedin qui n'était pas transmise au tribunal. Ça veut dire le tribunal ne juge pas. Pourquoi le tribunal ne juge pas? Parce qu'on n'a pas transmis au bedin. Alors pour le moment, on ne parle pas du péché du bedin. Le péché du bedin, c'est plus tard. Pour le moment, le péché, c'est du peuple. Le peuple ne transmet pas au bedin. Les témoins ne viennent pas témoigner. Le Bedi ne peut condamner que si le témoin, il vient, on arrive un bonhomme, on dit lui c'est l'assassin, ou il est mahal Shabbat, ou tous les péchés qui méritent le châtiment de la mort. Mais il faut le transmettre au Bedin. Mais on ne transmet pas. Shelo nimseru. Il n'était pas transmis au Bedin. Alors le péché, il est quoi? Dans la société, il y a un problème. La société ne transmet pas au Bedin. Pourquoi? Alors, on dit, quelle est la punition? Dever, la peste. En quoi la peste est Mida Keneged Mida? Avant, on avait parlé, je reviens en arrière. On ne donne pas le maaser. Alors, c'est bien la famine. Parce que le maaser, c'est nourrir les pauvres. Si le pauvre n'est pas nourri, il a faim. Donc, il arrive au monde une batzoret, la faim. La faim, et la faim, c'est Mida Keneged Mida. On a compris. Mais la peste, avec des mitotes qui n'étaient pas Nimsarot le Bedin. Alors, tu dis, la peste, elle peut être mortelle. Il y a des gens qui risquent de mourir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appliqué les condamnations à mort de la Torah. Très bien. Et pourquoi c'est pile la peste? Alors, le psaume, il est. Après, on parle du cheref, on parle de l'épée, une guerre. Il y a une différence entre une guerre et une peste. C'est quoi la différence? Quand il y a une guerre, quand il y a une épée, on voit l'épée. Et on voit qui tient l'épée aux mains. Et on sait où il faut agir. Un ennemi vient, un bandit vient à ce shalom avec un revolver. On peut l'identifier. Il a un revolver aux mains. Il faut le mettre hors possibilité de nuire pour se protéger de lui. On sait comment il peut tirer. Est-ce qu'on est dans sa possibilité de tirer, etc., etc. L'assassin et le danger est identifié. Et donc, on agit selon ce qu'on peut. Déverser la peste. C'est un ennemi invisible et on ne sait pas qui il a. Il peut le transmettre. Le seul moyen de vivre, se protéger, c'est de s'éloigner de la ville. Mais si on ne peut pas, et on ne sait pas qui porte et qui va infecter. Alors, ça, c'est le phénomène de Dever. Et ça, c'est un ennemi qui est de Mida Keneged Mida chez l'onim sur le Bedin, des péchés qui n'étaient pas transmis au Bedin. Pourquoi les gens ne transmettent pas au Bedin? Parce qu'il y a dans la société un esprit de liberté, de permissivité. On ne veut pas qu'on punisse. Les gens, même quand ils savent qu'il y a des grands gangsters qui méritent la mort, je ne vais pas raconter au Bedin. Pourquoi? Je ne veux pas qu'ils meurent. Pourquoi tu ne veux pas? Parce que soit que je pense que ce n'est pas si grave. Non, ce n'est pas des grands péchés. Ils ne méritent pas la mort pour ça. Soit, même si moi je le pense, mais je ne veux pas le dire aux gens, parce que les gens vont me regarder à travers. Si moi je vais à la police, j'aurai plein d'ennemis. Si moi je vais dire, ce type-là, il est mal le Shabbat, les gens vont dire, oh, vous faites des histoires pour rien, mais ça ne se fait pas. On fait une pression sur les gens pour éliminer la conscience de la gravité du péché. Et ça, c'est quelque chose, c'est un ennemi invisible. Ces choses-là, ils se font, tu sais même pas d'où ça vient. C'est une société, il y a le dé vers la peste, c'est une société dans laquelle s'est introduit un virus qui montre pas son visage et qui passe de l'un de l'autre et les gens ne savent pas qu'ils sont infectés. Ainsi, la permissivité est un ennemi de la moralité invisible. On n'a pas besoin de prêcher clairement. Nous allons permettre maintenant de tuer des gens. Nous allons perdre. On n'a pas besoin de le crier. Ça se fait par des milliers de petits trucs, un empoisonnement de la société. Et un, il s'infecte l'autre, jusque les gens, ils se taisent. Les grands crimes, on ferme la bouche, on dit rien. Donc, l'onim se roule au Bedin. On ne le transmet pas au Bedin. Et là, Mida Keneged Mida, paf, il peut arriver un virus, paf, il tape ici, il tape ici. Pas d'Afka, il tape sur ce qui a fauté. Mais dans la société, un virus, pour réveiller la société, de comprendre, il y a ici une permissivité. On a fait des grands péchés, on fait comme s'ils n'existaient pas. Val, Perot, Tchéviit, et sur ceux qui travaillent avec les fruits des Shemitah. C'est grave, sur ça, il y a de la peste, les fruits des Shemitah. Parce que les fruits des Shemitah aussi, une fois qu'on les vend au marché, on ne peut plus les reconnaître. Il y a des fruits des Shemitah qu'on n'a pas le droit de manger. Certes, on a le droit de manger avec Kedushat Shvi'it, il y a toute une halakhot. Avant le Zman Biur, après le Zman Biur, après le Zman Biur, c'est interdit de manger. Il y a des fruits des Shemitah qu'on a travaillé dans le champ, d'après certains Rishonim, c'est interdit de manger. Il y a des fruits des Shemitah qu'on n'a pas rendu Hefker, d'après certains Rishonim, c'est interdit de manger. Il y a des fruits des Shemitah qu'on fait du business, qui sont permis de manger, mais on fait du business, c'est l'argent qu'on recevra à Kadosh. On n'a pas le droit d'acheter des chaussures. On a le droit d'acheter que des fruits avec. Mais en tout cas, ce sont des choses qu'une fois qu'on les met sur le marché, on ne peut plus reconnaître. Tu vends des fruits, des légumes, des Shemitah sur le marché. Et les gens, ils revendent, ils la truc. Et il y a plein de halakhot pour les fruits des Shemitah. Ceux qui ne connaissent pas, mais celui qui ne sait pas se débrouiller. Et il a des pommes, aucune idée. Il ne sait pas si c'est ça, si c'est pas Shemitah. Et c'est justement, c'est, on ne sait pas qu'est-ce que c'est comme truc qu'on ne peut pas se protéger après quand on a mis sur le marché ces produits. Si c'est chazir, on sait, chazir, on ne mange pas. Tu mets sur le marché des chazir, c'est que je suis religieux. Il a envie de manger chazir, mais les fruits des Shemitah, une fois sur le marché, alors on n'a plus rien à manger. Ça, c'est l'histoire de la peste. Je n'aime plus personne nous fréquenter. La peste tourne rassurant dans une ville. Je ne veux pas l'attraper. Ah, il faut que je ne fréquente pas. Qui je ne fréquente pas? J'en sais rien. Qui a le virus, qui n'a pas le virus? Voilà, c'est Mida Keneged Mida. Kherev Bala Olam, l'épée vient au monde. Alors, l'épée, ça veut dire la guerre. En principe, Kherev, c'est dire la guerre. Alors là, c'est Al-Inui Hadin. Alors, ici, on ne parle pas du peuple, ici, on parle des juges. Avant de parler, le peuple ne fait pas, n'est pas assez conscient de la gravité des péchés. Et maintenant, on parle vis-à-vis des juges. Alors, Inui Hadin, c'est-à-dire retarder le din. C'est-à-dire, on a présenté chez le juge le cas, et le juge l'a réfléchi, il arrive à la maskana qu'en principe, oui, il doit payer, Rouven doit payer, Shimon aussi doit payer Rouven. Mais il ne le dit pas, il le laisse. Pourquoi? Je ne veux pas payer, dire maintenant, peut-être il a peur qu'on va lui crier dessus, on va voir ça plus tard, on verra ça dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Et l'autre, il a besoin de son argent. Si tu dis qu'il doit payer, il va commencer à payer maintenant. Si le juge n'a pas décidé, il va payer peut-être dans 1 an, il va dire. Et entre-temps, l'homme, il est privé de son argent. L'autre, il attend, il n'a pas son argent. Et ça, c'est une grande avla. Une avla. Dis quel est le din. Pourquoi tu laisses des gens dans le doute? Inui hadin. Ivotadin. Ivotadin, c'est ordre le din. On dit Rouven, il a raison, quand Shimon a raison. On dit que Shimon a raison, que Rouven n'a pas raison. Vala morim batura shaloka halakha. Et ceux qui enseignent les lois de la Torah qui ne correspondent pas à l'Acha. Shabbat, ça c'est permis. Shabbat, ça c'est interdit. Ça c'est permis de manger. Ça c'est interdit de manger. On est possèk des halachot qui ne correspondent pas à l'Acha. Et ça c'est quelque chose d'archi grave. Donc, Ivut Hadin, on parle normalement d'In, c'est Ben Adam Lachavero, entre deux personnes qui se disputent, ou un homme qui doit être condamné, Malkout, ou Mita, et il ne veut pas le dire, le juge il le sait. Soit qu'il tord, soit qu'il ne le dit pas, ou dans tout le reste de la Torah, il ne dit pas la halakha comme il faut. Et sur ça, il y a la guerre. La guerre, c'est une conséquence. En quoi la guerre, c'est une conséquence? C'est-à-dire, il y a la paix, il y a la guerre. Et la vraie Torah, c'est la paix. La Torah donne la paix. La halakha, c'est assur, monsieur, c'est assur, moutar, monsieur, c'est moutar. Et la Torah, elle donne Rav Shalom Banaïch, Altik Banaïch El Banaïch, que la Torah donne la paix au monde. Donc, s'il y a la vraie Torah, eh bien, ça installe la paix. Et si on tord la Torah, eh bien, l'outil de la paix est supprimé. Si l'outil de la paix est supprimé, eh bien, la conséquence, Rav Shalom, c'est la guerre. Hayara Bala Olam, des bêtes sauvages arrivent au monde. C'est quoi des bêtes sauvages? Des serpents, des morts, ou des scorpions, ou des lions, des tigres, des ours, des bêtes sauvages qui blessent les gens. Ça, c'est quoi? Al-Shuachav, Achilou l'Hachem. Sur un faux serment, sur la profanation du nom d'Hachem. En quoi ça c'est Mida Keneged Mida? Ça veut dire, Ça veut dire Chilul Hashem, c'est un homme n'est agressé par un animal que si l'homme est vu par l'animal comme un animal. Yan Yesod. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, le Ramban dit, tous les Rishonim disent ça. Quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, et il a créé l'homme, tous les animaux, ils avaient peur de l'homme. Vemoratrem, vechitrem, et je mettrai votre peur de Adam et Chava sur tous les animaux du monde. Tous les animaux, ils ont peur de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il est créé, à l'image de Dieu. Un lion, il voit un homme, mais c'est les Melukim. Les animaux, ils ont peur du c'est les Melukim. Donc, ils n'attaquent pas l'homme. Mais quand l'homme, Chassé Shalom, il rejette le c'est les Melukim, alors l'animal pense, c'est pas un divin celui-là. C'est un humain. C'est comme moi. C'est un animal sur deux pieds. L'animal sur deux pieds, chez les animaux, le grand, il mange le faible. Le fort mange le faible. Donc, l'animal peut attaquer un homme parce qu'il a perdu le Tselem Elohim. Et l'homme, il perd le Tselem Elohim quand lui, il profane Dieu, il profane sa partie Dieu en lui. Ça, c'est Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est quoi? C'est profaner la parole de Dieu. C'est profaner Dieu. C'est rendre Dieu Chulin. On a déjà parlé de Chilul Hashem, de ça. Profaner Dieu, c'est rendre Dieu Chulin, profane. C'est pas saint. C'est comme halal, c'est un cadavre. Un cadavre, un homme cadavre, qui est halal ba'adama. C'est un homme qui a le corps, mais la partie âme a disparu. Il est resté halal. L'homme est profané. Il a perdu sa partie kedusha. Donc, le chilul Hashem, il fait que c'est vidé. On vide chasvesham kabayachol, l'aimuna Hashem, on rend profane. Donc, l'homme, il se rend profane. Donc, son Tselem Elohim est parti. Si son Tselem Elohim est parti, les animaux, ils vont rencontrer ce monsieur. Ils vont dire, ça, c'est pas un Tselem Elohim, c'est un animal comme nous. Et bien, on va le manger. On va le blesser. Et si vous achetez faire un faux serment, c'est aussi un Chilul Hashem. Parce que c'est quoi un faux serment? Je jure en nom de Dieu que quelqu'un, il emprunte de l'argent. Et l'autre dit, monsieur, vous me devez encore 1000 euros. Ah non, je vous ai déjà remboursé. Ah non, vous ne m'avez pas remboursé. Ah oui, monsieur, je vous ai remboursé. Vous m'avez remboursé, je ne me rappelle pas. Ah oui, je me rappelle. Vous pouvez jurer. Et vous voulez que je vous jure? Il faut que j'ai dit quoi? Dites, au nom de Dieu, je vous dis la vérité que je vous ai remboursé. Oui, je vous dis au nom de Dieu que je vous ai déjà remboursé. Ah, il a juré avec le nom de Dieu. L'autre, il va dire, bon, alors, je me suis trompé. Excusez, monsieur, si vous jurez au nom de Dieu, ça veut dire quoi, jurer au nom de Dieu? C'est comme, je vous assure au nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Comme Dieu, il est vrai. Je vais peut-être vous voler 1000 euros, mais je ne vais pas toucher l'honneur de Dieu. Ça, non. À vous, je vous vole peut-être 1000 euros, mais je ne vais pas prendre Dieu comme témoin. Dieu dit, je prends Dieu comme témoin que c'est vrai ce que je dis, que je vous ai remboursé. Si c'est faux, à ce shalom, ça c'est un chilul Hashem. C'est profaner les paroles. C'est profaner Dieu. Et aussi, c'est la parole. Une chouachab, c'est la parole. Et la différence entre un homme et un animal, les deux mangent, les deux se reproduisent, les deux dorment, les animaux et les humains. Mais l'homme, il parle. L'homme, la parole de l'homme, la différence. Et parole, dire des paroles du faux avec le nom de Dieu, tu utilises ta partie humaine pour profaner Dieu. Alors là, tu as perdu ta qualité de l'homme. Tu n'es plus un homme. Tu es devenu un animal. Si tu es devenu un animal, eh bien, l'animal t'a kraya ra'a ba'al olam al shebuatcha ba'al chilul Hashem. Galut ba'al olam. L'exil vient au monde. Alors, diavo de zara sur les idolâtres. Ba'al gil arayot à cause de l'immoralité. Ba'al shvich adomim à cause de l'assassinat. Et le fait qu'on ne fait pas Shemitah. Ça, c'est hier dans la paracha. Pour ceux qui étaient chez lui à la maison, en train de ou à la shul, il a entendu la paracha. C'est parashat Bechukotai. Toute la Tochacha, il y a des dons à Vodazara, Gelarayot, Shvichodamim, et la Shemitah. La Torah répète plusieurs fois dans parashat Bechukotai, parce qu'on n'a pas fait Shemitah, il arrive l'exil. Donc l'exil, c'est carrément le déplacement du peuple juif vers un autre pays. Avant, on avait parlé cheref, l'épée. Alors, l'épée, c'est une guerre. Mais bon, il y avait beaucoup de guerres qui étaient en Eretz Israël, mais les Juifs ne sont pas partis en exil. Il y a une guerre, il y a une guerre, ça a existé, mais on est resté sur là. Bon, ben, c'est sûr, mais il y avait des morts, mais bon, on restait dans notre terre. Les galoutes, c'est carrément déplacé. Déplacé de la terre. C'est-à-dire, la terre ne peut plus supporter. Alors là, c'est que les gros calibres de péchés, ça c'est les plus grands. C'est Avodah Zarah, Kibbutz, les trois les plus grands péchés qui existent au monde. Ça rend un inapte. Eretz Yisrael ne peut pas supporter. Ces péchés sont trop forts. Les autres péchés, ça va. Mais ces péchés, c'est trop fort. Et la quatrième, c'est Shmita Ta'aretz. Ne pas respecter la Shmita, c'est un truc spécial. Shmita, c'est pas si grave. Mais la Shmita, c'est le symbole que la terre appartient à Hachem. Il nous a prêté la terre pendant 6 ans, vous travaillez 6 ans, et la septième année, vous travaillez pas. Donc, pourquoi? Kéli Kolares, la terre m'appartient à moi. Et c'est moi, Shmita Hachem, c'est moi la terre. Vous travaillez la terre quand je vous permets. Vous ne travaillez pas la terre quand je vous permets pas. Donc, ceux qui travaillent Shemitah ou qui travaillent avec les fruits du Shemitah, ils ne respectent pas Shemitah. Ah, ils considèrent qu'avec ces terres, je fais ce que je veux. Ah, tu veux faire avec ces terres ce que tu veux, tu penses que c'est ta terre, là, il y a un problème. Donc, c'est un truc spécial qui s'appelle Galout, l'exil. On risque de quitter Eretz Israël Chas v'Shalom.